C'est une maison bleue, adossée à la colline, on y vient à pied. Non, monte, je te prends, j'ai le 4x4. Non, on y vient à pied. Non, monte, je te prends, je te dis, j'ai le 4x4. C'est tout.
Créons d'un chien, il y en a marre. J'en parlais l'autre jour avec monsieur le maire. On n'a plus de train, l'école est fermée. Et v'là t'y pas qu'ils veulent nous enlever la poste. Ils m'ont coupé le téléphone parce que j'ai payé en retard. Demain, ils ont qu'à couper l'électricité et on sera coupé du monde comme en 40. Créons d'un chien, que je lui disais à monsieur le maire. Quand le con là, il n'y a pas d'autre mot, qui m'annonce que l'hôpital du canton va fermer aussi. Alors c'est décidé. J'appelle mon cheval et c'est en carriole que je vais y aller à Dugny-la-Meuse, à 15 km de Verdun, pour gueuler contre tous ces peine-culs qui dirigent le monde avec notre fric et pour leur bourse. Vendredi soir, on fera la fête. Le samedi matin, on discutera des services publics. Et l'après-midi, il y aura le José Bové, l'Annick Coupé, l'Olivier Besançon et la Francine Bavet qui causeront dans le micro. Alors, à pied, à cheval ou à bicyclette, venez tous ce week-end à Dugny ou à Villers-sur-Meuse. Créons-nous un chien. C'était un message de Sud PTT Paysan de Nancy. Merci les gars et à bientôt. Ciao.
Oui, bonjour, c'est Sylvette, j'ai 20 ans, je travaille comme pompiste dans une petite bourgade de 2500 habitants et aujourd'hui on est le 13 septembre et j'étais en train d'écouter l'émission et je vous avouerai que pour une fois elle me fait vachement peur votre émission parce que je me dis, voilà, j'ai 20 ans, j'ai arrêté mes études il y a 2 ans parce qu'elle ne me correspondait pas. Je suis toujours en train d'essayer de chercher lesquelles me correspondent et je me rends compte qu'un mec qui a 50 ans, qui a fait des putains d'études, qui était 4, lui il se retrouve au chômage alors qu'il est compétent dans un domaine, ben je vous avouerai que ça me fait vraiment peur parce que moi j'ai pas de compétence dans un domaine particulier. Et ben je me demande vraiment où je vais aller dans ces cas-là. Voilà, et puis merci beaucoup pour votre émission. Au revoir.
Bonjour à toute l'équipe de là-bas si j'y suis, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de là-bas si j'y suis. Erwan de Brest, donc demain soir entre 17h30, 18h, il y a réunion pour les amis de là-bas si j'y suis de Brest. Au Café de la Plage, place Guérin, et non pas la place Saint-Martin, comme je l'avais précisé lundi. Voilà, donc entre 17h30 et 18h, venez, on discutera, comme d'habitude. Et donc, tout le monde est attendu, et puis Daniel, bon courage pour la suite, et à bientôt, salut.
Oui, bonjour, Christine Courtemanche de Clazé, près de Restuire. Bon, alors, le café des amis, le repère des amis de la base, j'y suis. Donc, Restuire, Clazé, C-L-A-Z-A-Y. Au café Le Petit Clazé, 15 rue des Forges. La patronne, c'est Léa, L-E-A. Téléphone 05 49 81 21 90. Correspondante pour vous servir, Christine. Et la première rencontre, jeudi 6 octobre à 18h. Salut, oui, repère, on l'écrira avec un A, avec un I et avec un R. Et les trois lettres, beaucoup plus grosses que toutes les autres lettres. Salut!
Et ben voilà, ça devient clair. Voilà, on a lancé cette idée du repère des amis de là-bas si j'y suis. Et avec Christine, ça devient clair. On donne l'adresse du bistrot, précise le nom du patron ou de la patronne ou des deux. Et puis l'auditeur qui est instigateur, initiateur de l'affaire, ça devient le correspondant des amis de là-bas si j'y suis du bistrot qui fait repère. Vous avez compris. Vous choisissez un jour de la semaine où vous vous retrouvez entre auditeurs de France Inter et de là-bas si j'y suis, qui ont envie de se retrouver comme ça, histoire de tailler le bout de gras. Donc là, au café Le Petit Clazé, c'est le jeudi 6 octobre à 18h. Voilà, qu'on se retrouvera pour la première fois, et puis après on décidera de se retrouver chaque semaine. Voilà, ça marche, il y a des propositions d'un peu partout. On a un auditeur qui nous propose d'en créer un, quelque part en Inde. Hier, c'était San Francisco. Continuez comme ça à nous dire ce que vous souhaitez faire sur le répondeur de la base JSU 01 56 40 37 37. Ce répondeur, vous l'avez pris d'assaut littéralement hier après le reportage d'Olivia Gesbert sur cette famille saisie par le chômage, ce cadre supérieur qui s'est fait jeter, et avec l'histoire de sa femme qui a écrit ce petit livre, l'itinéraire d'un cadre jetable. Ça vous a beaucoup beaucoup touché, beaucoup beaucoup remué, beaucoup beaucoup secoué, et vous avez été très nombreux à réagir, si bien qu'on va quasiment passer cette heure entière sur vos réactions. On a l'impression, l'intuition, hein, aucune certitude, que ce que vous dites là correspond à quelque chose de très profond dans nos préoccupations, dans notre pays en ce moment. Ce qui était évidemment intéressant, c'est la contradiction de ce cadre supérieur qui a une belle carrière, qui a encore, et ça vous allez entendre, certains auditeurs ont été choqués, qu'ils se plaignent, alors que au fond la famille a encore presque 4000 euros de revenus mensuels. De quoi se plaignent-ils? On dit un certain nombre d'auditeurs. Ils pleurent la bouche pleine, a dit une auditrice hier. D'autres se sont identifiés, d'autres se sont aussi ont été assez aigres vis-à-vis de cet ingénieur qui s'est fait virer parce que lui-même avait fait des plans de licenciement. Il l'a dit à Olivia. D'autres évidemment, et dont nous faisons partie, ont trouvé évidemment passionnant ce témoignage. Et puis le courage qu'il a fallu pour le dire, c'est pas si fréquent, tant nous savons, et nous allons en avoir encore une preuve dans vos messages, qu'il y a là ce malaise terrible, profond du chômage, la culpabilité, le mépris de soi, etc. C'est quelque chose qui hante notre pays, pas seulement le nôtre, hein, nos pays, depuis fort longtemps, et qui revient et qui redevient la préoccupation numéro un de tous, de toutes, et c'est très profond. Nous allons le voir aujourd'hui au 01 56 40 37 37. C'est là où vous avez laissé tous ces messages.
J'ai rencontré un pensionnaire de la maison de retraite qui est venu sur ses deux béquilles avec un sac à dos acheter une bouteille de pauvre vin rouge. Il achète cela pour boire en cachette, pour se faire plaisir, pour se donner du cœur au ventre, pour transgresser le règlement répressif et humiliant de la maison de retraite. Il fait partie de ceux qui ont encore la chance de pouvoir sortir dans la journée pour prendre l'air. Dans le magasin, à la caisse, il me reconnaît. Je ne pensais pas avoir laissé de grands souvenirs chez lui puisqu'il ne participait pas aux animations que je proposais. Pourtant, il m'a semblé ravi de me voir et il m'a informé de son point de vue concernant ma mise au chômage. Il a dit que la directrice m'avait fait perdre ma place de CES pour y mettre sa fille. Bon, il l'a dit sans que je l'influence le moins du monde. Il a dit que maintenant l'animation c'était une catastrophe, qu'il n'y a que 2 ou 3 pensionnaires qui y participent, alors que je réunissais toujours au minimum 10 personnes avant le goûter, 20 à 40 après le goûter. Il a dit une chose assez dure, qui symbolise le manque de dialogue entre les pensionnaires et la direction des équipes. Monsieur Attel s'est fait attraper parce qu'il buvait un peu de temps en temps, ils l'ont coincé dans sa chambre avec une équipe médicale pour pouvoir l'embarquer vers un centre d'aide psychiatrique, ils lui ont fait une piqûre contre son gré pour l'endormir, et puis ils l'ont embarqué sur un chariot roulant dans une ambulance. Les institutions semblent dire par ces manières assez violentes qu'on ne discute pas avec les vieux. Le fait est qu'aucun membre des personnels n'ont de formation en psychologie ou en pédagogie et que le manque de créativité rend la vie cruelle dans les mouroirs de la République. Ce n'est pas lié à un manque de moyens uniquement. Pendant les 6 mois où j'ai travaillé, je n'avais aucun moyen matériel. Non, ce qui manque, c'est de la formation, de la compassion et de l'amour pour ces personnes qui finissent leur vie dans ces horribles mouroirs.
Bonjour, je m'appelle Sylviane, j'habite Paris. J'ai eu l'occasion de voir un documentaire, disons en avant-première, concernant l'assassinat des 2 inspecteurs du travail à Périgueux il y a 1 an. Ce documentaire passera sur France 2 vendredi 16, l'heure probablement assez tard, en fin de soirée, à ne manquer sous aucun prétexte. C'est un document absolument pétrifiant, et j'invite vraiment tous les auditeurs de France Inter à le regarder. Merci beaucoup.
Daniel, je viens de voir un truc incroyable. Je t'appelle de La Ferté-Massoux depuis des mois. La population se bat comme un lion pour essayer de sauver ce qui reste de l'hôpital. C'est classique, un schéma, on a perdu la matière, on va perdre la chirurgie, bientôt les urgences. Et là, je viens de voir à Gisors, le maire de Gisors, prendre fait et cause. Il a pris le micro du journaliste pour dire qu'il se laissera pas faire, qu'il est devant sa population, qu'il est déterminé à sauver son hôpital. Waouh, j'ai trouvé ça rafraîchissant. Ici, à La Ferté-Macé, c'est pas ça du tout. Nous, le maire, il est contre nous. Carrément, il prend des arrêtés municipaux, mais magnifiques, hein, où il nous interdit de nous réunir, de nous rassembler, de défiler, enfin, sur les marches de la mairie. Écoute, Daniel, si t'as du temps un peu, viens ici, je te jure, ça va nous faire du bien. Allez, salut, merci.
Vendredi, 15h07. Vous avez candidaté le 7 septembre sur l'offre de technicien-technicienne de maintenance en informatique, numéro 72-23-69E. Votre candidature n'a pas été retenue car votre formation ne correspond pas à celle souhaitée par l'entreprise. La NPE étudiera avec attention toute nouvelle candidature que vous enverrez sur d'autres offres. La NPE vous remercie. La NPE vous remercie de votre attention.
Et non, c'est pas un montage, c'est comme ça que la NPE vous répond. C'est Daniel Mermet et c'est tous les auditeurs de là-bas si j'y suis jusqu'à 18h dans la boîte vocale 01 56 40 37 et 37.
Flight number 2, arriving from New York.
Bonjour, j'ai entendu votre appel pour joindre la conseillère de la NPE tout à l'heure et je viens de vous adresser un email vous proposant également mon témoignage. Je suis directrice d'une agence pour l'emploi. Et j'ai donc décidé de quitter mes fonctions dans quelques semaines, excédée que je suis par la politique qu'on me demande de mettre en œuvre à l'égard des demandeurs d'emploi. Donc vous pouvez me joindre essentiellement le soir, puisque dans la journée, je m'occupe donc de la politique de Monsieur Borloo, et que, bien entendu, je ne suis pas très libre pour exprimer ce que je pense. Merci, au revoir.
Objet cadeau recherche pour grands magasins Paris et périphérie. Vendeuse, excellente présentation, expérience.
Il n'y a pas que des doléances, il y a aussi des dissidences et ce message en témoigne. On a eu hier une conseillère de la NPE qui nous a parlé de la même façon, sur le même ton. Elle a eu la gentillesse de nous rappeler pour nous laisser son numéro. Et évidemment, ça va nous permettre de faire un reportage, un sujet sur la façon dont tout cela se passe de ce côté-là, du côté de la NPE, du côté des ascédiques. C'est des réactions qui ont suivi les deux émissions d'hier et d'avant-hier, cette histoire dont je viens de parler de l'itinéraire de ce cadre jetable, qui avait suffisamment d'hyper-réalisme dans le ton, dans le traitement, et puis aussi quelque chose de contradictoire dans l'attitude des acteurs, des personnages, et leur façon et leur courage aussi à témoigner, tout simplement. Et j'emploie les mots acteurs et personnages parce que hier dans le montage nous avions intégré des extraits du film de Costa Gavras qui s'appelle Le coup près et qui est une formidable métaphore de ce chômage qui touche quand il touche les cadres, ceux qui n'étaient pas prévus pour ça a priori, ceux qui étaient les nantis, les gâtés, les protégés par ce système lui-même. Donc c'est les réactions à ces deux reportages et puis d'autres messages aussi que nous écoutons jusqu'à 18h.
Bonjour, vous êtes en relation avec le service vocal du régime d'assurance chômage.
Salut Daniel, c'est un agent de la CEDIC qui t'appelle. Je viens d'entendre le message d'un agent de la NPE. Moi pareil, je suis obligée de rester anonyme, sinon je perds mon boulot. Je voulais confirmer tout ce qu'elle raconte, parce que nous aussi à la CEDIC, on voit bien toutes ces radiations massives qui sont effectuées, pour des raisons ou d'autres injustifiées. Et puis récemment, il y a eu d'autres trucs qui sont mis en place depuis un nouveau décret du 2 août 2005. Nous, agents ACEDIC, on va pouvoir sanctionner les demandeurs d'emploi. On va pouvoir leur couper leurs allocations, on va pouvoir les faire radier. Et ça, ben, c'est nouveau et c'est passé pendant l'été, ce décret-là, du 2 août 2005. Et puis, il y a un nouveau truc aussi, la convention de reclassement personnalisé, la CRP, qui fait que désormais tous les licenciés économiques pour les entreprises de moins de 1000 salariés seront non pas considérés comme des chômeurs en catégorie 1, 2 ou 3, c'est-à-dire ceux qui comptent statistiques, enfin, surtout les catégories 1, ceux-là ils seront considérés comme stagiaires de la formation professionnelle pendant 8 mois, pendant les 8 mois que dure la CRP. Voilà comment on fait baisser les chiffres du chômage. C'est... Nous on garde notre boulot, comme elle disait elle aussi, moi je suis pareil, il faut que j'ai des gosses à faire vivre. C'est écœurant ce qu'on nous demande de faire. Voilà. Salut. Je laisse mes coordonnées, mais surtout, vous les passez pas, sinon je perds mon boulot. Salut, Daniel. Merci. Continue.
Et alors, à part ça, je voulais vous dire, j'ai appris que quand on est journaliste, alors, on peut faire des ce qu'on appelle des ménages. J'ai appris ça. C'est-à-dire qu'on vient faire parler des gens sur des sujets. On est là et puis ils parlent. Ceux-là ils parlent de ça, puis les autres ils parlent d'autre chose et tout ça. Alors moi ça m'intéresse beaucoup parce qu'il paraît que c'est très très bien payé. Alors vous pouvez m'écrire Daniel Mermet, Radio France, 116 avenue du président Kennedy, ou bien vous pouvez me téléphoner, bah tiens sur le répondeur de la base j'y suis, 01 56 40 37 37. Ouais, comme ça discrètement quoi, parce que c'est curieux. Moi je suis journaliste. Ma carte de presse est 91 730, hein, c'est mon numéro de carte de presse. Et alors je suis dans le poste tous les jours pourtant, hein, et personne n'a jamais proposé ça, dites-donc. Alors, non, je suis pas très connu, mais enfin, un petit peu, quand même, j'ai une petite notoriété. Et jamais personne m'a proposé ça, le truc avec des ménages, on se fait des sous, comme ça, ça me plairait bien, quoi. Hein? Vous avez noté mon numéro de téléphone. Merci d'avance pour ce que vous ferez, les amis. Merci.
Que des dominants, des vedettes de la politique, du showbiz, du sport, de l'économie, des vedettes du fric, quoi. Ceux qui ne savent même pas comment font la majorité des ventes pour vivre dans le monde qui nous forge. Ben oui, c'est pas rose. Moi ça va, j'ai un job. Je peux gaspiller les ressources de la planète comme les autres. Enfin, à mon échelle. Je suis seulement inquiet pour son devenir à la planète. Parce que tu as remarqué que les vedettes qu'on entend à la média sont tous myopes. Incapables de voir plus loin que leur prochain profit ou leurs prochaines élections. Bon, je peux pas t'écouter souvent, je travaille trop. Je suis du côté de ceux qui sont stressés par leur boulot pour compenser ceux qui sont stressés par de ne pas en avoir. Mais continue, va. Tant que la croissance économique, la connerie du profit sans conscience mène le monde. Allez, ciao.
Bonjour, Gérard Lipskin, je suis faucheur volontaire, 56 ans, chef d'entreprise et fils de résistant. Moi, je voudrais dire qu'il y a tout un tas de procès qui sont en train de s'engager contre les faucheurs volontaires aujourd'hui. J'ai envie de dire que je suis d'abord scandalisé qu'on punisse les faucheurs volontaires qui éradiquent volontairement, à visage découvert, des produits illégaux, illégaux parce que la directive 2018 n'est toujours pas mise dans la loi française, vous le savez. Illégaux parce que, tout simplement, aujourd'hui, les autorisations données sont illégales parce que ce sont les obtenteurs eux-mêmes qui font les essais avant de donner à la CGB les différents rapports d'expertise. C'est un scandale. Deuxièmement, parce que dans les attendants ou les vues, on remarque qu'on parle bien sûr sur les autorisations du sondage qui a été fait auprès des citoyens français. On ne dit pas simplement que 92% en 2004 avaient demandé à ce qu'il n'y ait plus d'essais. Mais ça, c'est l'illégalité et les magouilles du gouvernement, je le dis parce que je le pense, et je pense qu'il y a des liens très forts, très forts, ça serait intéressant de savoir lesquels d'ailleurs, je pense entre les ministres, les directeurs de cabinet et, disons, les obtenteurs qui sont soit des laboratoires ou des sociétés semencières. Voilà.
Je vous invite à participer aux animations et débats qui auront lieu à Rion le 14 et 15 septembre et à Clermont-Ferrand le 16 septembre à l'occasion des procès des faucheurs de Marsat et de Nonette. Il y aura de nombreux débats, actions et festivités à cette occasion, donc je vous invite à venir participer. Donc je vous donne rendez-vous le 16 à partir de 8h à Clermont-Ferrand devant la Maison du Peuple. Voilà, des bisous, à bientôt, ciao.
Voilà, je tenais simplement à dire que je trouve ça dingue que des gens riches s'aperçoivent que le chômage est une horreur seulement le jour où ils y tombent dedans de plein pied. En plus, je suis pas d'accord avec ses phrases qu'elle nous dit que l'humour c'est la politesse du désespoir. Non, c'est bien plus que ça. Voilà, qu'il y en a d'autres, passons vite à autre chose. On pourra garder le moral. Allez, salut Daniel. C'est Roland de Quimper.
Je trouve indécent l'émission du 13 septembre concernant ce cadre au chômage, vraiment consternant. Je suis désolée de vous le dire, pourtant j'aime beaucoup votre émission. Allez, ciao, à plus. C'était Chantal Devanne, merci.
Ben, j'ai écouté l'émission cet après-midi et ça m'a vraiment résonné de façon très profonde. Mon père a vécu ça, enfin, je croyais entendre ces mots. Et à la fois ça m'a foutu en colère parce que j'ai 44 ans, moi aussi j'ai vécu deux licenciements, un licenciement individuel, un licenciement collectif, et ce que je ressentais dans la voix de Pascal, c'était que j'avais envie de le secouer, quoi, pour lui dire qu'il était vivant, pour qu'il sorte de cette espèce de discours où on a l'impression qu'il habite plus du tout ce qu'il raconte, c'est très mécanisé. Et puis à la fois, j'avais envie de lui souhaiter bon courage et de lui dire peut-être qu'il fallait qu'il explore d'autres pistes. Je sais pas, qu'il envisage. Je sais pas quoi lui dire, mais je suis pas d'accord avec les auditeurs qui disent que ce mec-là il pleure la bouche ouverte. Je crois que malgré tout il y a une grande honnêteté dans ce qui est dit et un grand courage dans le fait de le dire aussi crûment et puis de parler des choses de la vie quotidienne. Et puis voilà.
Oui, c'était parler la bouche pleine, hein. C'était pas parler la bouche ouverte, c'était parler la bouche pleine. C'est l'expression qui a frappé. C'est marrant, il y a des expressions comme ça qui frappent et qui passent à travers les ondes, comme ça. Vous avez tous cité cette expression, il parle la bouche pleine. Voilà, c'est très contradictoire, hein, ces réactions. Et c'est évidemment, c'est ça qui est riche entre ceux qui ont trouvé indécent qu'on s'intéresse. C'est pas du tout défendre. C'est pas du tout essayer de faire pleurer sur c'est simplement montrer une catégorie socio-professionnelle, sociale comme on voudra, et en prise avec le chômage, avec l'exclusion, ce qui évidemment n'est pas prévu, ne fait pas partie de nos clichés. C'est d'abord évidemment ceux qui trinquent, ben voilà, c'est les ouvriers, c'est les immigrés, en matière de chômage de plus en plus d'exclusion, les femmes. Mais bon, cela, ben non, quoi. Ben si. Et c'est ça la nouveauté. Et c'est ça qui est en train de se produire et de gagner peu à peu ces classes moyennes qui sont concernées de plus en plus par cette insécurité sociale, ce qui, pour certains observateurs, pour revenir à une chose qui est complètement dépassée, dont plus personne ne parle, je parlais du nom du 29 mai, vous vous souvenez. Bon, et selon certains, il y aurait comme un lien entre eux, cette progressive exclusion des classes moyennes et le nom. Mais c'est une chose qui, vous savez, c'est des gens qui élucubrent des choses comme ça de temps en temps qui n'ont absolument aucune signification. On a tourné la page, on parle de tout à fait autre chose. La preuve.
Pascal, Marie-Annick, je compatis sincèrement à votre situation, mais malgré tout, vous n'êtes pas arrivé à me tirer la moindre larme. Quand on n'a pas peur du regard des autres, la honte du chômage n'est qu'éphémère, évanescente. Par contre, 950 euros de loyer quand on a peur de ne pas faire face dans l'avenir, ça me paraît un peu superflu. Ça équivaut en gros au salaire de l'ouvrière de chez Kenzo qui bosse depuis 30 ans et qui sera licenciée bientôt. Rentabilité oblige. Prenez donc les devants. 2 ans, c'est court. 55 ans à l'heure actuelle, c'est vieux. J'espère me tromper, mais vu le contexte social, je crains un peu pour l'avenir de Pascal. Enfin, pour pouvoir se délecter de légumes, même surgelés, il faut un congélateur, une gazinière, mais surtout un toit. Tout bascule vite dans une vie. C'était Bruno, 40 ans, SDF, avec encore une radio et un portable. Allez, bonne chance à tous. Ciao.
Daniel Mermet, je me permettais de réagir à vos deux émissions sur le chômage des cadres. Il me semble effectivement essentiel de montrer la détresse des gens qui sont actuellement au chômage. Et pourtant, il me semble également qu'il manque une clé de compréhension essentielle concernant le chômage massif qu'on connaît depuis 30 ans en France et puis dans d'autres pays. Et il me semble que vous avez été tout proche de donner cette clé lors d'une précédente émission sur le chômage, lorsque vous avez cité la déclaration de ce chef stratégiste qui avait déclaré le 27 mai 2005 sur France Info lors d'une émission boursière le pire ennemi des profits financiers, c'est le plein emploi. Or, nous sommes loin du plein emploi. Et ce chef stratégiste n'a pas donné simplement une opinion personnelle, il s'est en réalité basé sur un concept qui est omniprésent dans les milieux financiers et dans les milieux des économistes, qui fait l'objet de nombreuses publications et qui pourtant est absolument inconnu du grand public. Et ce concept s'appelle le NAIRU. Il s'écrit en 5 lettres, N-A-I-R-U. Et c'est le taux de chômage minimum en dessous duquel il ne faut pas descendre sous peine de risquer des tensions inflationnistes. Alors, il se trouve que j'ai pas mal travaillé sur ce concept ces derniers mois. Et si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez aller sur un blog que je viens de créer il y a quelques jours. Je vous donne l'adresse http://leneru.blogspot.com, le tout en minuscule, donc http://leneru.blogspot.com, le tout en minuscule, et vous en saurez plus. Voilà, je pense que ça sera intéressant. Au revoir.
Желтой жаркой Африки в центральной ее части как-то раз вне графика случилось несчастье. Слон сказал, не разобрав, видно быть по топу. А в общем так один жираф влюбился в антилопу. Тут поднялся галдеж и лай, и только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней. Папе антилоп, ему зачем такого сына? Все равно, что в лоб ему, что полбу, все едино. И жирафа взять брюшит, видали остолопа. И ушли к бизонам жить жирафом антилопа. Тут поднялся галдеж и лай, и только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней. Что же, что рога у ней, кричал жираф любовно. Нынче в нашей фауне равны все поголовно. Если вся моя родня будет ей не рада, не пеняйте на меня, я уйду из стана. Тут поднялся галдеж и лай, и только старый попугай громко крикнул из ветвей: жиров большой, ему виднее.
Je voudrais réagir à l'émission d'hier sur les cabres sauvages. J'ai moi-même fait une brillante école de commerce, Subdeco, et au bout de quelques années, je me suis retrouvé sans emploi. Et maintenant, eh bien, j'ai décidé de changer totalement d'activité et de me lancer dans le militantisme pour lutter contre les effets pervers de notre système capitaliste et libéral, donc au niveau essentiellement de l'environnement. Et finalement, je m'en porte très bien. Je m'occupe de la maison, je m'occupe du jardin. On va essayer d'avoir un potager un peu plus sain que toutes les saloperies qu'on nous propose dans nos hypermarchés maintenant. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je pense que c'est une expérience qui peut aussi être intéressante pour un certain nombre de personnes qui se posent des questions. Et finalement, bah, maintenant, on a tourné la page et on vit pas si mal que ça. Voilà, je vous dis bonjour à tous et souhaite bon courage à tous ceux qui sont dans des problèmes de ce type. Au revoir.
Voilà une des réactions d'un auditeur qui est allé planter ses choux et qui milite. Alors ça, c'est un peu dangereux. Si les cadres décrochent et font comme lui, si ça se généralisait, eh ben, ce serait assez curieux. Ça rappellerait certaines époques où on partait en Ardèche pour aller faire du fromage de chèvre. Je ne sais pas si ça peut se reproduire. Heureusement, ne vous inquiétez pas. Nous allons rester là, fidèles au poste, c'est le cas de le dire. Et à l'écoute du répondeur de la masse, si j'y suis, vous avez été très nombreux, je le rappelle, à laisser des messages, à réagir au reportage d'hier et d'avant-hier sur l'itinéraire de ce cadre jetable. Ça fait partie de ces réactions qui semblent être qui manifestent de quelque chose de profond. Je dis ça d'une façon tout à fait intuitive, mais je me rappelle, on avait il y a bien longtemps intitulé une série de reportages au début des années 90, 91 ou 92, je crois, c'est dire, qui s'appelait Souffrance en France. Et on essayait comme ça de raconter, on entendait tout à l'heure, on écoutait tout à l'heure un élément d'un reportage de cette époque-là sur la NPE, sur les. Ça rappelle un peu ces moments où la société tout d'un coup se trouve face à nouveau à ce désarroi, à cette souffrance, à cette détresse face au chômage et essaye de réagir et se demande bien comment.
Allô, là-bas si j'y suis, voilà, suite à l'émission sur ce couple dont le mari est au chômage. Nous, depuis 1974, nous avons été au chômage alternativement, mon mari et moi. C'est-à-dire que quand lui était au chômage, moi je travaillais et inversement. Nous avons des métiers très 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 à risque. Lui est architecte, moi je travaillais dans l'insertion sociale et professionnelle où on a beaucoup beaucoup de CDD. Et c'est vrai que c'est très dur. Là actuellement, maintenant nous sommes évidemment en HLM, n'ayant pas pu acheter de maison. Et notre dernier fils fait des études, mais je trouve que on ne parle pas assez, c'est vrai, de la détresse et de la solitude des chômeurs. Nous, tous nos amis que nous connaissions viennent plus beaucoup nous voir.
Au sujet du cadre jetable, cet homme est coincé dans la même problématique que tous ses collègues chômeurs. Tous. Le chômage, c'est pas la faute à les autres, au gouvernement, aux patrons, aux actionnaires. Attendre, je dis bien attendre, quand l'on vous donne un travail, un boulot, c'est un manque patent et consternant de créativité. Quand j'entends notre pauvre cadre avec sa voix chevrotante nous raconter qu'à 9h du matin, il est en robe de chambre, en attendant près du téléphone avec ses petites fiches classées, un hypothétique coup de fil en réponse à ses 250 envois de CV, je suis atterré d'un tel manque de créativité. Plutôt que d'analyser la réalité de la société française ou autre, et de chercher des niches de services où il pourrait exploiter ses compétences et créer, oui, je dis bien créer, des richesses pour lui et pour les autres, il ne demande qu'une chose, rempiler dans le fond de l'entreprise sans loi du tout jetable. Idem pour les ouvriers virés de leur usine, une seule obsession, y retourner. J'ai connu des moments difficiles, pas toujours de quoi offrir le minimum à mes enfants. Je suis artiste peintre, je n'ai jamais touché le moindre centime des pouvoirs publics. La créativité, c'est pas seulement avec des pinceaux. La créativité, c'est avec un cerveau que ça s'élabore. J'ai deux enfants au collège. Je n'ai pas la moindre angoisse quant à leur avenir. Ils n'en ont pas non plus, parce qu'ils sont l'un et l'autre très créatifs, très curieux du vaste monde qui les entoure, et pourront sans aucun doute aller au bout de leurs rêves, à l'image des dizaines de petits objets magnifiques qu'ils construisent avec tout et n'importe quoi quand ils viennent dans mon atelier. Alors, chômeurs, chers chômeurs, arrêtez de compter sur un système que plus personne ne contrôle et qui n'a rien à foutre de vous, le monde de l'entreprise. Empochez votre couteau suisse et soyez créatifs. Une dernière chose, il faudrait repenser cette notion de droit au travail. Le droit au travail implique immédiatement le corollaire suivant, le devoir d'en donner. Et ça, c'est pas défendable.
Petit témoignage d'un chômeur ordinaire, voilà. Aujourd'hui, j'ai fait la queue à la NPE. À 9h moins le quart, ça ouvre à 9h. Il y avait déjà 30 ou 40 personnes. Et pour avoir un entretien, il faut patienter jusqu'à 16h, 17h, voilà. Bon. Et je voulais aussi rapporter le témoignage d'un quelqu'un que je connais qui est un petit peu plus âgé que moi et qui pense que maintenant le rôle de la NPE et des ACDIC c'est de remplir les cimetières et les prisons. Hein, parce que si on ne peut plus se nourrir, on vole. Comme on accuse des pillards de la Nouvelle-Orléans. Et on suicide ou à petit feu. Voilà, bon, c'était un petit témoignage, ça. Je passe après. Voilà, c'était Christophe. À bientôt, ciao.
Marche. Sinon, jamais nous n'arriverons. Allez. Marche. Avec ses lunettes et ses casques blancs. Ne te retourne pas. Ils nous reconnaîtraient. Ils ne sont pas seuls. Il y en a des millions. Ils ont les étoiles de leur bord. Ils vont nous assaillir de pierres, d'étoiles. Allez. Réveille-toi. Accélère, davantage. Mais tu dors, tu dors, parbleu. Tu dors. Allez.
Je vous appelle parce que j'ai été radiée des ACDIC, non pas des ACDIC, de l'NPE. En fait, j'étais radiée normale. J'étais une chômeuse avant, puis maintenant je suis rien. Avant, il y avait eu un souci, il y avait des prud'hommes ou n'importe quoi. Et là, aujourd'hui, on m'a envoyé un courrier pour me dire que j'étais radiée tout bonnement. Alors effectivement, quand on bosse, on peut aller au prud'homme, on peut aller au ministère du Travail, je sais pas, on peut aller n'importe où pour se plaindre. Mais nous, les chômeurs, je pense qu'on est très très forts, en fait. Et qu'on peut se permettre de recevoir un courrier comme ça. On a tellement été radiés de partout. Je pense qu'après, c'est fini. C'est facile pour eux de nous envoyer ce genre de courrier. On me signifie que je ne suis pas venue le 22 août. Et donc, à partir de là, tant pis pour moi. Je ne serai plus rien. Bon, j'en rigole. Et puis, j'en rigole pas. Non, je ne sais plus. Je sais plus si on est fort ou on est con, je sais plus. Je m'appelle Sherazade, ça veut rien dire mon nom parce que j'ai jamais subi quoi que ce soit, ni le racisme, ni rien. Au contraire, mon prénom m'a toujours servi. Daniel, j'aime beaucoup ce que tu fais. J'ai l'impression de te connaître parce que c'est con, mais c'est les chômeurs, une fois qu'ils sont longtemps à côté de la radio, ils deviennent. J'ai honte de moi. Allez, bisous, ciao.
Merci pour l'émission de Daniel Mermet sur les cadres au chômage, qui est très intéressante.
elle arrive à une date précise où il est peut-être enfin possible de parler de ce genre de choses. Et puis, il serait intéressant un jour avec... où ce serait peut-être possible de parler de ces autres privilégiés qui ont 10 ans de chômage 1995-2005 dans les dents et qui ont fait tous les stages de réinsertion, les CES, les boulots saisonniers, etc. et qui aujourd'hui, sans motoculteur, juste avec une bêche et un râteau, font du jardin pour survivre le naufrage. Voilà.
Tombé de haut, on avait appelé ce genre de situation. J'ai honte de moi, dit cette auditrice qui s'appelle Shiraz, c'est terrible, hein, avoir honte de soi. On voit bien que le monde du chômage n'est pas un monde uniforme, je veux dire. C'est pas, il y a des divisions à l'intérieur de. Est-ce que c'est vraiment un monde d'abord? Est-ce qu'une détresse commune peut constituer un monde? C'est bien difficile à dire, mais on sait toutes les difficultés des associations de défense de chômage, AC, la PAYS. On avait rencontré des gens de CGT chômage, etc. La difficulté qu'il y a à faire quelque chose en commun, à cause de cette honte précisément, à cause de ces différences, à cause de, ben voilà, le cadre, lui, il a encore 2500 euros d'indemnité, pas pour très longtemps, mais il les a quand même encore, alors que d'autres sont tombés vraiment en dessous de tout, etc. Donc c'est très difficile, et c'est ça la faiblesse, c'est de là que viennent les raisons réelles de s'inquiéter, qui se manifestent dans les messages que vous avez laissés dans le répondeur, sur la boîte vocale, sur le répondeur 01 56 40 37 37. On va voir que ça ne touche pas seulement ceux qui sont dans le privé.
Pour être un futur cadre de qualité, je fais le service à Nassau. J'ai produit à Bobo du Lasso. Je me suis dit, c'est pas grave, car il faut vraiment être brave. Mais après 18 mois de chômage, j'avais notre visage, ainsi ça devenait sérieux. J'en étais malheureux. Je vous assure, c'est pas facile. Je ne suis plus tranquille. Chez moi, c'est la misère. Chez certains, c'est la galère.
J'ai entendu votre émission, je suis très bouleversée. Je suis moi-même un futur cadre jetable de la République, à savoir que je suis particulièrement touchée par ce que disait cette femme, parce que je suis moi aussi professeure, que je vis seule avec ma fille et que je vois d'année en année mon pouvoir d'achat diminuer, et que l'angoisse du lendemain, eh bien, je connais. L'angoisse pour pour ma fille, pour son avenir, pour mes moyens de pouvoir financer tout ça, de pouvoir payer tout ça. Voilà, donc je suis quelqu'un, certes, qui a un emploi, qui gagne correctement sa vie, on pourrait dire qui gagnait correctement sa vie, mais qui petit à petit sent arriver la menace de la précarité et qui suit de tout cœur avec tous ces gens qui sont là et qui souffrent aussi. Voilà. Je tenais à témoigner de ce que sont les futurs cadres jetables de la République. Je précise que mon poste vient d'être supprimé à 50%. Je n'ai plus qu'un demi-poste. Et que pour le moitié de poste restant, eh bien, je suis un pion qu'on va mettre là où on a besoin. J'ai 54 ans et 25 ans de carrière dans l'éducation nationale. Voici, nous aussi, nous sommes bientôt jetables. Au revoir.
La grande braderie des chômeurs continue. 1500 euros si tu quittes tout pour aller travailler à plus de 150 km de chez toi. Dis-moi, deux Villepintes, si je pars de l'autre côté de la terre, allez, à peu près 20 000 km, en proportion, cela fait 133 fois plus loin, 133 fois 1500. Allez, je te fais un prix d'ami. 100 000, ça le fera pour décamper et ne plus voir ta tête de brushing ni celle de tes complices au journal télévisé.
Raymond à l'appareil. J'ai entendu votre émission sur le cadre qui a du mal à retrouver du travail. J'ai simplement une question à lui faire parvenir. Imaginons qu'il retrouve du travail très rapidement, c'est tout le mal que je lui souhaite. Au bout de 6 mois, il doit faire un plan social dans son entreprise. Que fait-il, ce brave homme? Je pense que c'est la bonne question à lui poser.
Effectivement. Mais ça, c'est une question qu'on ne lui a pas posée. On aurait dû lui poser. Vous avez bien raison. Mais effectivement, si Pascal retrouve du boulot, est-ce qu'à nouveau il procédera à des plans sociaux? Et si on lui disait, voilà, on vous prend à tel poste, un poste qui correspond à ses aspirations, mais il faudra virer les autres. Question, sans réponse, je ne vais pas du tout à répondre à sa place, mais ça fait partie des réponses essentielles. Il nous a été très difficile, ça fait très longtemps qu'on essaye d'avoir des témoignages de ceux qui organisent ces plans sociaux, qui touchent des primes quand les licenciements se passent bien. Oui, quand vous êtes des RH, vous avez des licenciements à faire, si ça se passe bien, pas trop de vagues, si vous arrivez à endormir tout le monde, vous avez des primes. Mais bien sûr. Mais des témoignages comme ça, c'est effectivement très rare. Il se trouve très peu de ceux qui ont fait ça qui viennent le dire. Comme si c'était un petit peu dégueulasse.
Quentin de Rennes, je suis étudiant et je souhaitais réagir par rapport à l'émission sur le livre Itinéraire d'un cadre jetable. J'avoue que je suis totalement effaré par les réactions de certains auditeurs. J'ai eu l'occasion, moi, de lire ce livre. C'est un livre écrit à vif, hein, qui n'a absolument pas pour objet de faire pitié, et je voulais vraiment être un exutoire. Quand j'entends certains éditeurs qui non seulement sont égoïstes, mais se plaignent de ne gagner que le SMIC, et que ceux qui ont fait de longues études, qui se sont donné du mal, finalement, n'ont pas le droit de se plaindre, je trouve ça véritablement hallucinant. En fait, les cadres n'ont le droit que de cotiser très largement pour financer les ACEDIC et les allocations familiales de tous, voire les retraites de ces SMICards. N'oublions pas que ces cadres constitués par les non-cadres gagnent peut-être correctement leur vie, mais ils participent énormément au financement de ceux qui sont en recherche d'emploi, de ceux qui ont des ACEDIC grâce à eux. Alors s'il vous plaît, arrêtez de ne penser qu'à vous, et acceptez que les cadres aussi peuvent être en difficulté, et que c'est finalement qu'un juste retour des choses qu'ils soient correctement indemnisés. Pour information, j'ai un bac plus 7, je vis depuis plusieurs années avec beaucoup moins que le RMI. Alors effectivement, j'ai fait le choix de faire des études. Je pense avoir mérité un jour de gagner correctement ma vie. Et que ceux qui gagnent le SMIC, car ils ont fait le choix de ne pas poursuivre leurs études, ne me font pas pitié. Merci Daniel, et s'il vous plaît, avec les chers auditeurs, apprenez à être tolérants. Merci.
Daniel, bonsoir. Ici Perpignanais. Je viens d'écouter avec attention une nouvelle fois ton émission, ce soir sur le dégraissage des salariés et des cadres. Merci aux conseillers de la NPE pour mettre en exergue à l'antenne ce que bon nombre de chômeurs ont pu apprécier par leur personne. Ton émission est d'un réalisme troublant et laisse augurer un bien sombre avenir. Il nous faudra devenir patron ou de bons robots acéphalés, mais uniquement sur certains points de vue. Nos ministres du Travail nous bercent d'illusions perpétuelles avec un S. Le patronat conforte sa position jour après jour, tout comme les salariés, l'ensemble sur la base des vases communicants, les uns toujours un peu plus haut, les autres sans cesse vers le bas. Encore merci pour ta radio-réalité. Il nous faudrait faire parvenir un présent à notre ministre actuel, Premier ministre, à savoir un poste de radio. 20 sur 20 pour France Inter. Bonsoir.
La crise est finie, nous vivons dans l'âge d'or. La crise est finie, en criant le bien fort. On voit les jeunes et les vieux, ils sont fêtés, chanter joyeux, la 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 la, et répéter en cœur. La crise est finie, la crise est finie.
La crise est finie, ce petit air joyeux comme tout date de 1934, le temps de la montée des périls en Europe. Merci à tous, merci à tous les auditeurs qui ont laissé ces messages dans le répondeur de la base J'y suis, au 01 56 40 37 37. Merci à Emmanuel Chupin qui nous a aidé pour la programmation aujourd'hui. À lire Guerre aux chômeurs ou Guerre au chômage d'Emmanuel Pierru aux éditions Le Croquant. Et pour les repères des amis de la base J'y suis, toutes ces informations sont disponibles sur le site de Radio France, www.radiofrance.fr, chaîne France Inter, à la rubrique émission La base J'y suis technique aujourd'hui. Alain Stam et Jean-Philippe Jeanne, réalisation Antoine Chao, Yann Chouquet et Raphaël Moutère, d'assistante Pascal Le Pascariello. Le répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. Ça, je pense que vous finissez par le savoir. Et c'est Christophe Humbert qui s'en occupe, le mail, le courriel de la base où j'y suis, c'est daniel.mermer@radiofrance.com. Et puis voilà, c'est le moment de la réclame, et bien sûr.